Frères et sœurs, bonjour. J'ai parlé il y a déjà quelques dimanches, un après-midi. C'était le thème d'une de nos conférences. Et vous m'avez demandé de redonner, parce que ça aurait été certainement très utile pour les plus jeunes et pour ceux qui n'ont pas pu être là. Et tous ceux qui ont encore de la force, d'un âge moyen mais sûr. C'est important pour nous de parler sur la vieillesse. Il faut le faire. Hein. Sur la vie et les jours. Parce que vous savez que le troisième, même le quatrième aujourd'hui, quatrième âge, prend beaucoup d'ampleur dans la société. Il y a beaucoup de personnes âgées en France. Il y a déjà 6 millions de veuves. Et les personnes âgées prennent de plus en plus aussi de place dans les églises. Quand je suis arrivé à Rennes, il y avait 3-4 jeunes et puis il n'y avait que des personnes âgées pratiquement. Mais elles étaient admirables. Et j'en garde tellement de beaux souvenirs. Alors, je voudrais introduire cette méditation, ces pensées, ces notes, ce rappel biblique, et puis écouter au fond de notre cœur une certaine vocation. On est appelé à être auprès des gens âgés, et les gens âgés sont appelés à être aussi avec nous dans l'Église, évidemment. Alors, je voudrais introduire avec le psaume 71. Le psaume 71... Si je ne peux pas tout dire aujourd'hui, je vous le dirai plus tard, hein, parce que c'est immense comme sujet. Psaume 71. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver. Parfois on doute. Tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Car les personnes âgées, elles ont eu un passé, hein. Ne l'oublions pas. Commettez pas l'erreur que j'ai commise dans mon enfance, je pensais que ma grand-mère avait toujours été vieille, qu'elle était née vieille. Ils ont eu un passé de jeunesse, et ça, il ne faut pas l'oublier. En toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont. Ne m'abandonne pas, car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant « Dieu l'abandonne ». C'est terrible, hein, les paroles. Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Qu'ils soient confus, exterminés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice sur ceux qui te cherchent, qui cherchent ma perte, pardon, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Amen. Je vous rappelle la bénédiction du roi Salomon dans le psaume 72, ce roi, pas comme les autres. Il a été particulièrement béni plus qu'aucun homme sur la terre. Pourquoi a-t-il été béni? Pas parce qu'il avait des belles danseuses ou des beaux chanteurs et beaucoup d'argent, beaucoup de belles choses dans sa maison. Il a été béni parce qu'il prenait soin des pauvres et des faibles. Il n'a pas été béni parce qu'il était très intelligent, très cultivé, très capable. Il a été béni parce qu'il prenait soin des pauvres, des déshérités. Il avait compassion. Et dans l'Église, je pense que la bénédiction, elle est liée à notre amitié, à notre compassion, à notre affection fraternelle pour les faibles, les personnes âgées. Je ne sais pas qu'elles sont toutes faibles. Et puis les handicapés. Et ceux qui sont seuls et qui se battent, je crois que c'est la clé. Ce n'est pas la danse des jeunes filles ni le chant des jeunes gens. C'est la clé, c'est la compassion pour les personnes faibles. Mais notre société, elle repousse de plus en plus les personnes âgées et elle les condamne à la solitude et à un certain désespoir. C'est terrible. On a l'impression que les personnes âgées sont considérées comme une autre race humaine. Elles ne sont pas dans le vent comme les autres. C'est une autre. Elles ne sont pas semblables à nous, aux autres, aux jeunes. Et ce sentiment, je l'ai déjà vu un peu dans l'Église. Et je l'ai vu même à la table de la Sainte-Seine. Ce sentiment qu'il y a d'un côté les plus jeunes et d'un autre côté les gens âgés. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus tellement bien l'expérience de la vieillesse, qui est une expérience voulue de Dieu, programmée par Dieu. Simone de Beauvoir disait « Ce sera l'échec de notre civilisation si on ne reconnaît pas l'importance de la fin de vie, de la vieillesse ». Mais la Bible dit que les personnes âgées portent encore du fruit dans la vieillesse. Donc elles ont semé dans leur jeunesse aussi. Le fruit, ça ne tombe pas comme ça. Il faut travailler toute sa vie et elles ont porté du fruit dans la vieillesse. Et dans la vieillesse, elles sont encore pleines de sève et verdoyantes. Donc on a de l'avenir. Le temps de la vieillesse est un temps où l'on approfondit la vie avec Dieu et les autres, où l'on accomplit quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas un point final, c'est une continuité. On ne peut pas commencer les choses tout de suite. C'est toute la vie qui s'est préparée pour arriver à ce temps-là. Souvent, on apprécie la valeur de la vie à tout ce qu'on a réalisé. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie ? Combien tu as gagné? On apprécie la vie avec ce qu'on a gagné, avec le passé. Mais la vie, c'est encore ce qui est à venir. Et nos personnes âgées ont de l'avenir. Permettez-moi de vous dire ce qui va servir de conclusion. Peut-être que je vais vous étonner un peu. L'avenir de l'Église, ce sont aussi les personnes âgées. Je dis aussi, pas uniquement, ce sont les personnes âgées. Parce que je vous dirai à la fin, en conclusion, mesdames, messieurs, qui avez un peu d'âge, je vous dirai que vos prières sont votre ministère et que l'avenir de l'Église passe par les prières des anciens. Que Dieu les bénisse au milieu de nous. Amen. Nous avons besoin d'un avenir. La vie, c'est ce qui va encore venir devant nous. On ne peut pas conduire sans avoir la route devant nous. On ne peut pas vivre sans avoir un avenir, quelque chose à faire demain. Le psaume 23, que vous connaissez bien, dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Pas seulement dans la jeunesse, tous les jours de ma vie, les jours futurs, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Très souvent, des gens m'ont dit « Bon, c'est fini pour moi, j'en ai fait assez. » Mais pour être heureux dans notre vie, il faut savoir recevoir, oui, à la fin, et donner encore. Je pense que nos gens âgés ont des choses à nous donner. On pense parfois faire quelque chose pour les personnes âgées. Je crois que c'est très bien. Et nous ne pensons plus qu'elles peuvent encore faire quelque chose pour nous. Elles ont encore des choses à nous donner. Une expérience, une sagesse de vie, une disponibilité, une compréhension des choses, une écoute. Et puis, elles savent parler. Elles ont de l'expérience. « Venez, mes fils, écoutez-moi, dit le psaume 34, et je vous enseignerai la sagesse. » Voilà comment doivent parler les personnes âgées. Les personnes âgées, parfois, si on s'en occupe tellement et qu'on ne les écoute pas, elles vont avoir le sentiment qu'elles ne sont plus utiles à rien. Ce sont des gens dont on s'occupe seulement, on les assiste. La vieillesse n'est pas une maladie, ce n'est pas une décadence, c'est un temps prévu par Dieu. On a été fœtus, on a été nouveau-né, on a été jeune, on a été adulte, et nous serons, avec la grâce de Dieu, des personnes âgées. Mais évidemment, quand on est âgé, bien sûr, vous me le dites toujours, mes sœurs, surtout mes sœurs, parce qu'il y a plus de sœurs que de frères âgés, on ne peut plus faire comme avant. On n'est plus comme avant, on n'a plus envie de certaines choses. On ne sait plus les faire. On n'en veut plus même. On n'a plus envie. Parce qu'on a vu autre chose. Et on a plutôt envie d'exploiter de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, de nouvelles réflexions. Vous connaissez l'Ecclésiaste ? Au chapitre 12, il y a une image, une illustration sur la vieillesse qui ressemble à une maison avec des gens qui vivent. Et il dit, l'Ecclésiaste, Salomon, il dit, le soleil s'obscurcit. Mais non, grand-père, ce sont vos yeux qui diminuent. Mais lui, il dit, le soleil s'obscurcit. Il dit, les gardiens de la maison tremblent. Et ce sont ses jambes qui tremblent, qui ne le portent plus bien. Il dit, le bruit de la meule, vous savez, qui meule les outils agricoles, le bruit de la meule s'abaisse. La télé est moins forte aujourd'hui qu'avant. La radio est moins forte qu'avant. Mais non, ce sont vos oreilles qui entendent moins bien. Nous n'avons plus les mêmes capacités. Et puis, tout ce qui est élevé nous fait peur. La route qui monte nous fait peur. Tout ce qui a tendance à nous dominer, qui est élevé, nous fait peur, on n'a pas envie d'affronter certaines choses. C'est vrai. Mais l'apôtre Paul dit, si notre corps s'use petit à petit, si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur devient nouveau chaque jour. Et je pense que la vie chrétienne, la vie spirituelle, elle ne s'arrête pas quand on est en pleine force de l'âge. Je crois que Dieu continue de travailler dans votre cœur, de travailler dans votre esprit pour vous rendre semblable à Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas être défaitiste devant les années de la vieillesse. Il faut se réconcilier avec une autre façon de vivre, plus calme, plus lente. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes appelés à achever l'œuvre que Dieu a commencée en nous. Il faut que nous arrivions devant le Seigneur irréprochables, irrépréhensibles, sans tache, sans rides. Pourtant, on a des rides dans la vieillesse. Sans rides. Il faut que nous arrivions à être des chrétiens complets, achevés, spirituellement. Parce que la vie, ce n'est pas simplement la réussite professionnelle, ce n'est pas simplement la réussite financière, c'est une réussite avec Dieu, c'est une marche avec Dieu. Et je crois que les années de la fin de vie sont des années de préparation, de perfectionnement de notre vie spirituelle. Alors la vieillesse n'est pas un échec, c'est un don de Dieu. Dieu nous donne ce temps-là. C'est vrai que la vieillesse fait partie du jugement que Dieu a donné à l'humanité. Il a abrégé la vie des hommes à cause du péché. Mais la vieillesse reste un don, parce que pendant ce temps-là, on se répare, on se prépare. Mais l'âge, ce n'est pas seulement l'âge qui fait. Parfois, on dit, mais quel âge il a ? Alors, s'il a plus de 70 ans, oh, c'est terrible, c'est un homme âgé. Ça dépend comment il est, comment il se porte, comment il vit, comment il se sent. Ça dépend. Mais même quand on ne va pas bien et quand je visite des personnes dans les maisons de retraite, je vois bien des gens qui sont tellement diminués, mais je me dis, même sur le lit de mort, le Seigneur continue de travailler dans les consciences des enfants de Dieu. Amen. Si j'avais vu Moïse à 120 ans, j'aurais dit, oh, c'est un grand-père. Il montait encore sur la montagne et il parlait très fort et il était dans la force de l'âge spirituel. 120 ans, mon courage, mes sœurs. Amen. Mais avec l'âge, il faut donner à sa vie un sens. Il faut donner à sa vie, il faut rechercher le sens de la vie. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Il m'est arrivé tellement de problèmes, d'histoires, de tristesses. Comment j'ai géré tout ça, et d'échecs même spirituellement. Comment j'ai géré ma vie ? Voilà, on fait un peu le point. Et puis on dit maintenant, comment je vais gérer ma vie demain ? On ne se laisse pas aller, on n'a plus de patron pour nous commander. On pense à ce qu'on va faire. J'ai comparé la vieillesse à une image d'un écrivain italien, Dante, qui disait qu'au milieu de la vie, on se retrouve dans une forêt obscure. Dans la forêt obscure, les amis se sont retirés. Au temps de Dante, la vieillesse commençait à 35 ans, 40 ans. Hein. Il y a des personnes âgées parmi nous de 35 ans. Et au milieu de la vie, même à 40 ans, tout à coup, on se retrouve dans la forêt obscure. Mais que dit David dans les psaumes ? Je suis oublié des cœurs comme un vase, comme un mort. Pourtant, après tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'on peut faire, on est oublié. On ne pense plus à nous. On oublie de nous souhaiter une bonne année ou notre anniversaire ou de nous dire bonjour ou au revoir. On est oublié des cœurs. David disait, je suis comme un vase brisé, c'est-à-dire un vase qui ne sert plus à rien. On ne peut rien faire avec un vase brisé. On me considère que je ne sers à rien. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Et mes années se consument dans les soupirs. Voilà comment David parlait. Mais je continue avec les psaumes. Dieu marche à nos côtés. Et c'est en lui que je trouverai du repos, même dans mes blanches années. Amen. Le Seigneur sera toujours avec nous. Et il nous attend comme il a attendu Élie, avec ce doux murmure qu'il a donné dans les oreilles d'Élie, ce fin silence. Je pense que la vie des personnes âgées est importante parce que c'est le miroir que nous devons donner de la vie aux jeunes générations. Il ne faut pas que les jeunes qui courent, qui sautent et qui chantent bien et qui sont pleins d'allant, il ne faut pas qu'elles pensent qu'elles vont rester comme ça toujours. Il faut qu'elles regardent comment sera la suite de la vie, comment nous allons devenir. Je crois qu'il faut regarder. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, regardez la fin de leur vie, considérez la fin de leur vie et imitez leur foi. Personnes âgées, c'est le miroir de notre vie de demain. Voilà ce que je vais vivre demain. Si le Seigneur ne revient pas avant, et si je ne meurs pas plus tôt, évidemment. En tenant à l'écart les personnes âgées de l'Église, je vous dirai quelque chose après d'important, en les tenant à l'écart de notre souci, de notre amitié, de notre vie dans l'Église, je pense qu'on enlève de l'Église une des plus grandes leçons, l'histoire. Parce que nos personnes âgées, c'était l'histoire de l'Église, je pense de Rennes, des années 40 et 50. Et si je ne les écoute pas, si elles ne m'intéressent pas, il y a toute une partie de l'histoire que je vais oublier. Elles ont fait des expériences avec Dieu. Elles se sont converties parfois au travers de grands miracles. Elles ont eu des moments de culte absolument remarquables où le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et ces personnes âgées aujourd'hui, elles sont au milieu de nous. Que Dieu les bénisse. Amen. Elles vivent, c'est ça l'histoire, elles vivent le passage vers Dieu. Elles vivent la Pâque. Pâque, ça veut dire passage. La Pâque vers le Seigneur. Elles vivent malgré leur impuissance, avec peut-être leur façon de vivre, mais elles nous impressionnent. Elles sont sur le départ. Actuellement, je prie parce que nous avons une bonne douzaine de personnes très âgées dans l'Église et je sais bien, hélas, qu'elles ne vont pas pouvoir rester avec nous toujours, mais c'est mieux pour elles parce que le Seigneur leur a préparé une place là-haut dans son royaume. Et elles arriveront bientôt, dans quelque temps, dans le royaume de Dieu. Mais elles sont là avec nous. Et il faut qu'on les entoure. Elles sont des exemples par leur façon de parler, leur façon de vivre, leur incapacité aussi. Elles ne peuvent pas tout faire. Elles sont impuissantes. Et leur foi, ne t'en fais pas. Je me souviens toujours de personnes âgées. Je vais vous en citer une, c'était Madame Guyot. Et souvent, elle me disait, quand je le visitais, « Allez, cher frère, le Seigneur sera là. » Et M. Petat, le papa de M. Petat, quand j'allais le visiter dans sa maison auprès d'Elbeuf, « Allez, cher frère, prenez courage, ne vous en faites pas. » Il avait 40 ans de plus que moi. C'était un réconfort. Les âgés donnent aux jeunes de l'encouragement et une conscience de leur devenir. Donc c'est difficile de donner un sens à la vieillesse. Elle va se faire, mais déjà dès le début, réserver du temps pour Dieu, passer du temps aux enseignements, à encourager les plus jeunes. Ça nous demande beaucoup de méditation, beaucoup de prières. Vous savez comment on parlait autrefois ? Comment les anciens d'Israël parlaient quand ils allaient mourir ? Ils étaient très faibles et ils disaient, c'était beau quand même, « Je vais rejoindre mes pères ». On ne leur disait pas, mais elles sont dépassées, ça n'a plus de sens. Ils vont rejoindre leur père, ils vont retrouver leur grand-père, leurs parents, comme s'ils allaient revivre une vie de famille. On avait cette vision que la vieillesse était l'entrée vers la maison des pères qui est dans le ciel. Je pense que la vieillesse, c'est une vocation. On est appelé à évoluer intérieurement, à approfondir notre conversion, à retrouver une vie avec Dieu plus authentique, à rencontrer le Seigneur qui s'approche de plus en plus. On se prépare pour le départ et on prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça peut m'arriver demain, un accident de voiture, et chez vous, mais je dois me préparer aussi comme vous. Mais quand on voit les années qui défilent, on se prépare à la rencontre de notre Dieu. On ne laisse rien traîner. On regarde le passé, parce qu'il faut se souvenir du passé pour le régler, et on regarde l'avenir pour mettre toutes choses en ordre avec les autres. On ne laisse rien traîner qui soit mauvais dans nos relations avec les autres. On regarde aussi que nos relations avec Dieu soient bien réglées. On fait le point, on demande pardon, on dit là, je me suis entêté, j'ai voulu forcer, mais je me suis trompé de chemin, j'ai commis des erreurs. On regarde et on rectifie. S'il n'y a pas de sens dans notre vieillesse, vous savez, c'est une souffrance quand on manque de sens. Quand la vie n'a plus de sens, il y a un sens dans la maladie, il y a un sens dans le deuil, il y a un sens dans la fin de vie. Il faut que l'on apprenne le sens qui s'appelle la présence de Dieu. On peut supporter les pires souffrances, mais s'il y a un but, s'il y a un motif, on supporte mieux. Par exemple, j'ai travaillé à l'hôpital, dans un hospice, comme on disait à l'époque, et quand je voyais des personnes âgées très mal et que leurs enfants allaient venir, si les enfants avaient 2-3 semaines de retard, les personnes âgées, ça crampenait, elles étaient là, elles ne mouraient pas. On avait l'impression qu'elles s'accrochaient à la vie, parce qu'elles avaient un but, elles avaient un motif, elles attendaient leurs petits-enfants qui allaient venir les voir. Et toute leur énergie était mobilisée dans l'attente des enfants. Et nous, nous sommes mobilisés chaque semaine par le culte que l'on attend, par la venue du Seigneur. La vieillesse est une montée vers Dieu, une approche de la rencontre avec Dieu. Et dans tous nos gestes de chaque jour, chaque geste devient porteur de la vie éternelle. Tout ce que nous faisons, on sait que ça aura des conséquences dans l'éternité. Alors on aplanit le chemin, on va à petits pas, on se remémore le passé, on laisse un peu la mémoire revenir en nous. Et chaque jour, Seigneur, comme tu voudras, tu peux me reprendre, je suis prêt, on se présente à Dieu. Et puis avec les années, ce qui est matériel a moins d'importance. Quand on est jeune, un clou c'est un clou, ça peut servir, on ne sait jamais. On économise, on stocke, on amasse. Et puis avec les années, eh bien, ça prend moins d'importance. On fait moins attention aux choses matérielles. Parce que ce qui compte, c'est d'être, c'est notre intérieur. La vieillesse est donc un don de Dieu pour accomplir ce qui est encore en chantier. Finir le chantier de Dieu. Si nous partions tous dans un instant, si nous partions tous tout de suite à 45 ans, on n'aurait pas le temps de finir, de se préparer, de se réconcilier, de se pardonner. Mais la vieillesse, chaque jour, j'ai des choix à faire. Ah, je dis « je », voyez-vous, déjà ça commence. Nous avons des choix à faire. Soit on reste dans l'amertume, on en veut au monde entier, ou alors on marche courageusement vers la lumière du Seigneur. Serein, attentif aux autres. Avec Dieu, la vieillesse, c'est un chemin de la rencontre avec Dieu. C'est le chemin, c'est un temps pour Dieu. Il y a un temps pour tout, et ce temps-là, il est pour Dieu. Nous sommes, je pense peut-être, en train de préparer quelque chose dans l'Église pour les personnes âgées, je vous l'ai dit l'autre jour, et je pense même que parfois, on devrait avoir des impositions des mains spéciales pour nos sœurs qui ont un ministère, elles ne le savent pas toujours, un ministère de prière. Et les personnes âgées sont redoutables parce que Dieu entend leurs prières. Et quand je dis à une dame âgée, à un frère, priez pour moi, sœur, je sais que leurs prières sont entendues. Un ministère, c'est un ministère que Dieu, qui est dans la présence de Dieu. Et quand nos sœurs prient, je sais que je suis béni. Je sais que Dieu les entend et je sais que Dieu les visite et me visite. Amen. La vieillesse, c'est donc un chantier que nous terminons. Comme ici, on a voulu finir le chantier, on n'a pas voulu vous accueillir dans la poussière. C'est un chemin de rencontre avec Dieu. L'école de la vieillesse est aussi une école de souffrance. Et les personnes qui souffrent, eh bien, comme on dit parfois en Bretagne, elles pignent moins, elles sont moins à se plaindre, sont moins à gémir. La souffrance nous ouvre les yeux aussi sur le besoin des autres. On comprend la solitude des autres, le veuvage des autres. On comprend la peur des autres. On prend conscience dans la vieillesse que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes que des voyageurs. Il faut mettre de l'ordre dans sa maison. On va déménager. Le Seigneur disait à Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison, prépare-toi parce que tu vas mourir. On se prépare. Il y a un temps pour se préparer. Il y a un temps pour embrasser. On fait plein de choses. On accumule plein de choses. On stocke, on emmagasine. Puis il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. On embrasse moins. Je ne parle pas de la femme. On embrasse moins de choses. On embrasse moins d'histoires. On prend du recul. On est simplement là pour enlever ce qui a été planté, redresser ce qui a été courbé. On rectifie. C'est le temps des modifications. C'est un temps où l'on se repose sur Dieu chaque jour, à chaque pas. On fait confiance à Dieu dès le matin et le soir, je me couche. Le soir, vous savez, chez les personnes âgées, c'est toujours un peu l'angoisse. Parce que, surtout l'hiver, la nuit tombe très tôt, il fait noir. Alors, dans le noir, on pense à plein de choses et puis on se fait peur. Et les personnes âgées, quand je les visite le soir surtout, elles me confient qu'elles ont peur. Alors, il faut apprendre à se reposer sur Dieu. David disait, « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car le Seigneur est mon soutien. » Pensez à cela. Et peut-être que le soir, un petit coup de fil, bien, ça peut réconforter, éclairer, réchauffer. Vous connaissez ce passage de la Bible, personne ne meurt pour lui-même, personne ne vit pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur, si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Personne ne vieillit pour lui-même. On n'est pas oublié de Dieu dans la vieillesse. Si nous vieillissons, c'est pour le Seigneur. Évidemment, on lit moins, nos yeux se fatiguent. C'est pourquoi tout ce que nous faisons dans la vie, toute cette préparation, ces années, je crois, de lecture de la Bible, elles vont nous servir dans la vieillesse. Je me souviens de nos personnes âgées, même qui parfois perdaient un petit peu la tête. Mais quand je récitais les psaumes, elles les récitaient avant moi, parce qu'elles s'en rappelaient à la perfection. Et dans leur prière, tout était clair, parce qu'elles avaient emmagasiné une vie avec Dieu. Un épanouissement spirituel. Je pense que nous sommes dans une culture aujourd'hui, dans un monde où l'épanouissement personnel est primordial. On pense à soi, on se fait du bien. On est là pour soi-même. Mais dans la vieillesse, eh bien, on s'éloigne de tout cela pour l'essentiel. L'essentiel, c'est la seule chose nécessaire, c'est la présence de Jésus. Je souhaite à nos personnes âgées, eh bien, qu'elles ne s'attachent plus aux choses périssables, mais qui n'accomplissent pas vraiment la vie, ce qui sont extérieurs à nous. L'argent, c'est extérieur, le matériel, c'est extérieur, tout ce qu'on fait, c'est extérieur, mais à la fin, il faut penser à l'intérieur. Et puis, j'ai remarqué aussi que dans la vieillesse, il y a une certaine passivité. On ne peut plus décider, on a peur de décider, on a peur d'entreprendre. Et j'ai vu ça dans la Bible, avec l'apôtre Pierre. Au moment du reniement, Jésus se réconcilie avec lui, « Paix mes agneaux, paix mes brebis. » Et Jésus lui dit, « Pierre, quand tu étais jeune, donc il n'est plus tout à fait jeune, peut-être entre 30 et 40 ans, Pierre, quand tu étais jeune, tu t'habillais toi-même, tu mettais toi-même ta ceinture, évidemment, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un va t'habiller, va te mettre ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas aller. Et ça, c'était la mort, bien sûr. Et dans la vieillesse, eh bien, on va devenir dépendant des autres. On aura besoin des autres. Et on ne pourra plus faire les choses essentielles, primordiales. Mais c'est notre vocation de vieillesse, nous en remettre dans les mains de Dieu, comme Pierre. Seigneur, je te remets la suite de ma vie. On remet la suite des temps, la suite des jours. Il y a un dépouillement, comme le dépouillement du Christ. On apprend à ne plus avoir confiance en soi, à se dépouiller pour s'appuyer sur la bonté du Seigneur chaque jour. On renonce à toute ambition, toute poursuite de possession, de pouvoir. On redevient comme des enfants. Jésus disait, si vous ne devenez comme des enfants, mais dans la vieillesse, j'ai remarqué, on redevient un peu comme des enfants par la simplicité, par simplement le refus des choses inutiles. On redevient comme des enfants. Mais c'est un sommet, la vieillesse. Vous savez, le Christ a donné des paraboles, et la parabole des serviteurs qui préparent la maison pour la venue du maître et qui s'activent, qui s'affairent. Et je pense que la vieillesse, c'est être le serviteur qui prépare la maison. Et demain, le Seigneur va frapper et le Seigneur nous dira, je te demande maintenant de venir, entre dans la joie de ton maître. La vieillesse, c'est notre dernier examen, c'est préparer le chemin du Seigneur, c'est préparer sa rencontre. Ne perdons pas de temps à ressasser le passé avec amertume, ce qui agace souvent les autres. Préparons-nous pour le Seigneur. Je vois dans la Bible, presque fini, deux vieillards qui étaient magnifiques, Siméon et Anne. Siméon et Anne, ce ne sont pas des jeunes. Ils attendent la venue du Seigneur dans le monde et dans leur cœur. Ils vont ouvrir la porte du temple à Marie, Joseph et Jésus, l'enfant, dans les bras de Marie. Et dans leur grand âge, ils deviennent serviteurs de Dieu. Ils vont bénir l'enfant. Ils vont le prendre dans... Siméon va le prendre dans ses bras. Siméon va faire une œuvre de serviteur des dieux à la fin de sa vie. Et je pense que nous devons attendre la venue de Jésus dans notre vie. Un jour, boum, il apparaîtra et nous partirons avec lui. Mais peut-être aussi que nous serons encore là quand il paraîtra sur les nuées du ciel. La vieillesse, on va lentement, mais on va vers le Seigneur. Comme Enoch qui marche, il marche, il ne revient plus. Il est parti chez le Seigneur. Il n'est jamais revenu dire au revoir à sa femme. On n'aura pas le temps de dire au revoir parfois à nos petits-enfants ou à nos enfants. C'est pourquoi il ne faut pas oublier le bisou de la grand-mère. Parce qu'un jour, on ne pourra plus le faire. Elle sera partie et on pleurera. Et on dira comme souvent, « Ah, si j'avais su, je n'aurais pas raté cette dernière journée. » Que le Seigneur nous aide. C'est un temps de purification. On se purifie des choses superflues. C'est le temps de jeter. C'est le temps aussi de pleurer. Que Dieu bénisse abondamment. C'est le temps de vivre les béatitudes, heureux les pauvres. On n'a plus rien. On arrive à la fin. Quand je travaillais à l'hospice, les gens n'avaient qu'un lit et une toute petite table de nuit, c'est tout, qui était comme une frontière de guerre entre les lits, dans une chambre de 20 lits. Et à la fin de notre vie, on vit les béatitudes, heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux ceux qui font miséricorde. Les personnes âgées pardonnent, elles ne veulent pas entretenir de querelles, ne sont pas là pour être la première. On a enlevé les surcharges de la vie, on a enlevé les surcharges inutiles et on devient plus simple, plus vrai, plus juste avec les années. on a enlevé. Michel-Ange, ce grand sculpteur italien, travaillait sur une statue dans son atelier. Puis il y avait une dame qui est entrée et puis qui a vu Michel-Ange qui enlevait des morceaux, des gros morceaux. Il les jetait partout. Et la dame a dit, mais oh, vous perdez tout, vous jetez tout. Et Michel-Ange a dit, chaque morceau que j'enlève fait apparaître le chef-d'œuvre qui se cache dans la pierre. Chaque fois qu'il enlevait un morceau, c'était un bras qui apparaissait, c'était un visage, c'était des jambes. On enlève pour paraître selon le cœur de Dieu, devant Dieu. Amen. Alors, je donne une petite note très fraternelle à mes frères et sœurs âgés. Vous voulez bien ? Est-ce que les jeunes acceptent que je parle à mes frères et sœurs âgés ? Avec la vieillesse, on goûte le fruit du travail de son âme de toutes les années passées. Ceux qui n'ont aucune rencontre avec Dieu, ils arrivent à la fin, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est difficile de raccrocher les wagons, parce qu'on n'a pas eu le temps de prier, parce qu'on n'a pas lu la Bible. Mais quand on a travaillé son âme, je crois qu'à la fin, on goûte les fruits. Et attention, plus on avance en âge, et moins on change de direction facilement. Si on n'a pas pris des décisions pour le Christ, on ne les prendra pas tellement à la fin de la vie. On ne saura pas comment faire, on n'aura pas le temps, on n'aura pas envie. C'est dans la jeunesse qu'on prend les décisions, et c'est toute la vie où l'on décide de suivre le Seigneur. Oui, on est sauvé en un instant. Seigneur, tu as appelé, t'as arraché Pierre de l'eau, tu l'as sauvé en un instant. Mais la communion avec Dieu ne se rattrape pas en un instant, c'est toute la vie qui se travaille et qui se vit à la fin. C'est comme le piano. Si une pianiste ne joue pas de piano pendant 15 ans, tout à coup, elle ne va pas se mettre à jouer à la perfection. Il faut qu'elle s'entraîne tous les jours. Préparez-vous, mes frères et sœurs âgés, préparez-vous. Dieu travaille en vous dans votre vieillesse. Il continue de vous transformer à l'image de Jésus par son esprit qui agit en vous. Parfois, les gens me disent « Ah, oh, je ne parle plus en langue. » Oui, peut-être, mais en vous, le Saint-Esprit, Jésus l'a dit, c'est Jésus, ce n'est pas moi, le Saint-Esprit demeure en vous éternellement. Donc, il travaille en vous. Notre homme intérieur, dit Paul, se renouvelle de jour en jour. La vieillesse, c'est l'époque de la transfiguration. Jésus, sur la montagne, plus il priait, plus il était transfiguré. Et je pense que nos personnes âgées, pas sur leur visage, dans leur cœur, c'est la transfiguration. Regardez la vieillesse de l'apôtre Paul. Paul, vieillard, dit-il, Paul, virgule, vieillard et prisonnier de Jésus-Christ. Mais il disait dans ses derniers moments, ses dernières paroles, il disait, sans parler de son corps souffrant, sans parler de tout ce qu'on a fait souffrir à Paul, il disait, j'ai laissé Trophime malade à Milet. J'ai laissé mon ami malade. Prends Marc et amène-le-moi, j'en ai besoin. Et amène les manuscrits que j'ai laissés. Et puis il disait, j'ai laissé Tite tout seul en Yougoslavie, devant des lions là-bas. J'ai laissé Tite tout seul en Yougoslavie. À la fin de sa vie, il ne dit pas « Moi, Paul, j'ai fait, moi, Paul, j'ai fait. » Il pense aux autres. Mais ça, c'est le travail d'une vie. Dans toute sa vie, quand on pense qu'à soi, qu'à son argent, qu'à ses vacances, qu'à sa voiture, à la fin de la vie, on reparlera de ses vacances, de sa voiture et de son argent. J'aime bien l'apôtre Paul pour ça. « Ma chair et mon corps peuvent se consumer » dans le psaume 73. Dieu sera toujours le rocher de mon âme et mon partage. Amen. Et j'arrive à la fin. Mes sœurs et mes frères, vous avez un service dans l'Église. Ce service, c'est de persévérer dans les prières pour votre pasteur, parce que vos prières sont entendues par Dieu, et de continuer à demander la volonté de Dieu pour l'Église. Vos vieillards auront des songes, c'est-à-dire qu'ils verront ce que les jeunes ne voient pas. eh bien, continuez de prier pour moi et pour toute l'Église et pour les petits. Et continuez de partager. Je vous dis après la fin. Vous avez vécu des choses. Vous êtes riche d'expérience avec Dieu. Vous savez vous exprimer dans ce domaine. Plus que les jeunes qui parfois cherchent leurs mots, ne savent pas trop, n'ont pas été encore assez aguerris. Et en communiquant ce que vous avez vécu, vous serez moins seul. En partageant, vous recevrez aussi. Vous avez un savoir, vous avez une capacité d'aimer, une capacité de rassurer, une capacité d'apaiser, une capacité, pardonnez-moi, de souffrir et d'attendre et d'encourager les autres. Un pasteur que j'ai toujours aimé dans ses écrits, je ne l'ai pas connu, il y a 150 ans, 160 ans, Adolphe Monod, il a eu un cancer dans la cinquantaine et il était sur son lit de mort. Et tous les dimanches, il avait son culte, il réunissait des amis, jusqu'à son dernier jour, il réunissait quelques amis et il faisait un petit culte pour le Seigneur dans sa chambre de mort jusqu'à la fin. Servir jusqu'à la fin. Et comme disait Jean-Sébastien Bach, « Devant ton trône, maintenant, je me tiens. » Alors j'aimerais, pourquoi pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mes sœurs âgées me regardent attentivement. Eh bien oui, j'aimerais qu'on entende quelques mots de nos personnes âgées. Non ? Amen ou pas amen ? Oui ? Pas maintenant, ça se prépare. Mais on en a eu peut-être une cinquantaine à Rennes qui sont partis. Hein. Mais si on entendait, par exemple, un dimanche matin, mais pas seulement des âgés, des familles, des couples, etc. Bon. Bref, si on entendait chaque dimanche matin quelqu'un qui nous dise, ben voilà, je suis Madame Intel, et puis j'ai connu le Seigneur, et puis dire peut-être deux minutes qui, et on vous verrait, on vous découvrirait, on écouterait un peu de votre parcours, courtement, et puis vous prierez pour nous, et puis on prierait pour vous, et puis il y aurait du partage. Et je suis sûr que ça nous permettrait de nous connaître. Vous savez le problème que j'ai vu à Noël, quand on a fait la distribution des cadeaux, 80% de l'Église est venue vers moi en disant « Qui c'est Madame Intel ? Qui c'est Monsieur Intel ? Qui c'est Monsieur Intel ?» On ne se connaît pas. On était un peu tassés chez la voisine, c'est vrai, je reconnais. Mais je pense qu'on a besoin de se connaître. Les agapes aussi, dans l'agape, mais dans l'agape, on parle à trois personnes, une devant et deux à côté. Mais c'est vrai que c'est bien l'agape, parce que là, on parle avec le temps qu'il faut, des agapes. Et puis, au culte, voilà, un petit message de Madame Dupont, par exemple, qui va nous dire quelque chose. Alors, on ne va pas raconter toute la vie, mais une expérience de vie, parce qu'on s'est convertis tous un peu de la même façon, mais une expérience de vie. La semaine dernière, ben, j'avais vraiment très peur. J'ai eu un moment d'angoisse, mais j'ai appelé le Seigneur, et puis j'ai eu au même moment un petit coup de fil, et puis quelqu'un est venu me voir, puis ça m'a réconforté, puis je continue, et puis que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen ou pas amen ? Je prie le Seigneur pour vous. Bientôt, un dimanche, je vais dire à une sœur âgée de venir là, si elle peut monter les marches, mais on peut descendre un micro, qu'elle prie pour toute l'Assemblée. Non ? Mais oui, elles ont un ministère de prière. Au Burkina Faso, les anciens m'avaient dit, il y a une dame, côté de Boromo, là-bas, qui a un ministère de prière. C'est extraordinaire. Et vous savez ce qu'on fait ? C'est une dame très âgée. Je ne l'ai pas vue, elle était toute petite. On va la chercher. Et quand il y a des grandes rencontres, on la met au milieu de l'auditoire. Puis là, elle ne danse pas, elle ne fait pas des esbroufes, mais là, elle prie. Elle prie pour la réunion, au milieu de l'auditoire, au Burkina Faso. Et le Seigneur, pendant qu'elle prie, il agit et il fait des miracles. Amen. mes sœurs, priez pour moi. Vous avez un ministère. Priez pour l'Église, priez pour nos enfants. Amen. Merci pour ta parole d'aujourd'hui qui nous ouvre les yeux sur notre vie et sur l'utilité de chaque jour et sur la peine aussi de chaque jour. Mais nous voulons vivre pour toi. Nous t'avons dit dans le passé, avec tellement de bonheur et de joie, je te donne toute ma vie. Nous le redisons encore, mais aujourd'hui, toute la vie, ça veut dire aussi pour certains les 80 ans, les 90 ans. Mais nous continuons de te dire, Seigneur, je te donne ma vie. Ce n'est pas seulement la vie du passé, c'est la vie d'aujourd'hui, la vie de demain et la vie de l'éternité. Amen. Bénis ton Église, unis-la, réunis-la. Et donne-nous de bien vivre ensemble dans une amitié sincère, sans crainte ni doute, et sans a priori sur les gens, sans exclusion, sans mépris, sans tuer la foi des gens. Donne-nous de bien vivre ensemble et aussi de faire attention à la fragilité. Je ne l'ai pas dit, je l'ai écrit. Vous savez, une église où l'on parle toujours de puissance et de pouvoir. Je crois que c'est une église qui fait peur, on me l'a dit, hein, aux personnes âgées. Parce que dites-moi, je ne pourrais pas faire ça. Ce n'est pas fait pour moi. Je crois dans la puissance du Saint-Esprit. Mais dans l'église, il faut des prières et il faut des paroles à la portée de tous qui rejoignent chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.